Un extrait de l'œuvre monumentale de Pink Floyd, The Wall, puisque ce sont trois morceaux, voilà, trois bouts de morceaux mis ensemble. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Donc, c'est l'occasion, grâce à Cinemaniacs, une musique avec un gros arrangement symphonique. Pour sa qualité, on pourra demander tout à l'heure éventuellement son avis à Mark Feldman, qui ne reprend pas encore, l'OSB ne reprend pas Pink Floyd, pas cette année, mais en tout cas,
peut-être
une volonté.
Une autre fois. Hein.
Peut-être une autre fois. Bonjour Marc.
Bonjour.
L'orchestre symphonique va tout de même s'investir cette année comme les autres pour mener la musique, cette musique exploratrice un peu partout, dans les communes rurales, dans les EHPAD, dans les écoles, dans les centres-villes, puisque cette musique, c'est ce langage universel et intemporel. Je vous cite, hein, bien entendu, dans votre édito. Vous le menez même jusqu'au campus aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important de mobiliser les étudiants et en tout cas peut-être même aller à leur rencontre ?
Je trouve qu'il y a quelque chose de très important. En général, dans la culture en France, je ne suis pas français. Et je trouve, c'est un peu une croisade, c'est devenu une croisade pour moi. Je prends des termes vraiment très forts, parce que la culture orchestre classique, c'est un mot que je déteste, classique, c'est orchestre tout court, les musées, les théâtres, etc., on dit que vous, les étudiants, vous ne fréquentez plus, ce qui est malheureusement vrai. Et que souvent, quand je parle avec les étudiants, et pas forcément étudiants, mais des gens un tout petit peu plus âgés que vous, mais qui viennent de sortir peut-être de l'université, on me dit souvent, oh, bah, tu sais Marc, l'opéra, l'orchestre, on aime beaucoup tout ça, mais les lieux ne sont pas pour nous. C'est pour nos parents, nos grands-parents même, mais nous, tout ça, ça, notre culture est autre. Et j'ai simplement une chose à dire, c'est que venez quand même. Venez découvrir, parce que ça vaut vraiment la peine. Je ne peux pas dire plus que ça, mais la France en particulier a créé des castes culturelles. Et aujourd'hui, vous les étudiants, votre génération est en train de dire « on ne veut plus de votre caste ». Et je veux dire que c'est une caricature que certains ont fait, mais qui n'est pas de tout ce qui se passe partout. Et donc de faire un amalgame entre ce qu'on peut entendre sur France Musique et ce qui se passe ici à Rennes ou dans d'autres villes est malheureux. Et donc nous, on a fait un travail à l'Orchestre Symphonique de Bretagne, c'est vraiment notre travail, c'est un peu parfois controversé dans mon métier, d'ouvrir, d'aller à leur rencontre et de dire sur un campus on va venir vous voir, vous pouvez venir vous voir, et surtout qu'on est ouvert, il faut demander des questions, il faut plus avoir peur de ce grand mot classique qu'on a tellement brandi en France. Voilà, donc c'est le croisade de Mark Feldman pour dire que venez entendre, écouter, participer, parce que c'est important. C'est important de le faire.
Dès ce soir ainsi que demain, ici sur la fac, Mark Feldman et son orchestre font l'effort de venir vous voir. Alors venez aussi vous peut-être, on parlait des lieux à découvrir, et là c'est pas n'importe quel lieu que vous allez pouvoir obtenir cette année, c'est le couvent des Jacobins, un tout nouveau lieu.
Oui. Très,
alors là c'est un lieu chargé d'histoire, un lieu complètement incroyable.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est un peu dans mon édito aussi, c'est que, une autre chose, au centre-ville de Rennes, il y a un lieu qui était là depuis 1400 quelque chose. C'est là où Anne de Bretagne s'est fiancée avec un roi de France et que la Bretagne est devenue français, quelque part. Donc c'est riche d'histoire. Mais même plus loin, on a fait des fouilles sur ce lieu parce qu'on a construit une salle de concert, on a creusé sous le cloître. Le cloître était suspendu sur des vérins pendant un an, pendant qu'on creuse pour construire une salle de concert. Et on a trouvé des cercueils, des tombeaux, des rues, des ruelles de Rennes de 12e, 13e, 11e siècle. On a remonté jusqu'au temple de Mercure de 1er siècle. Sur ce lieu, au centre de notre ville. Et nous, comme dans un film d'épouvante, j'espère que ça ne va pas être un film d'épouvante, notre salle de concert est posée sur toute cette histoire, de toute cette culture, et je peux vous dire une chose, je suis persuadé qu'au 1er siècle, il y avait des gens qui chantaient, qui dansaient, qui jouaient des instruments sur ce lieu. Et nous, 2000 ans après, on est là, et donc on a l'honneur et le privilège et la responsabilité de jouer sur 20 histoires de 20 siècles d'histoire. Donc le lieu est magnifique, tout bonnement magnifique, donc je vous invite de venir, c'est à partir de janvier.
Donc, beaucoup de choses ont changé en 20 siècles, mais la musique est toujours là, une musique parfois savante, mais aussi vous vous tournez vers les musiques dites populaires, comme avec le projet Taliesin, où là c'est la musique celte qui va être mise en avant.
Oui, c'est-à-dire que encore, vous faites quelque chose très français.
Oh, je sens que ça, c'est pas un compliment.
Non, mais c'est-à-dire que, bon, j'aime bien titiller un peu. Est-ce que vous pensez, ou qu'est-ce que les Français pensent, que la musique celtique, ou que la musique, entre guillemets, populaire, est quelque part pas une musique savante ? C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a une musique qui est savante, qui appartient à savoir simplement parce qu'on l'écrit, et que les autres, on n'a pas besoin de savoir pour le jouer. C'est complètement faux. Donc, en fait, ce qu'on fait à l'Orchestre Symphonique de Bretagne, c'est qu'il n'y a pas une hiérarchie culturelle. C'est-à-dire qu'on est en Bretagne. On rejoint nos confrères en Irlande, en Écosse, Pays de Galles, en Galice, où les orchestres ils font partie de leur culture régionale. Et aussi, il y a beaucoup de compositeurs dans l'histoire de la musique, qui ont emprunté des mélodies traditionnelles, etc., pour jouer dans des orchestres symphoniques. Et si en France, c'était un grand faux pas, depuis un certain moment, de vouloir faire de la musique, de prendre une mélodie basque ou d'une mélodie bretonne et le mettre dans l'orchestre, tout d'un coup, on était connoté régionaliste. Mais c'est-à-dire que pour Bartok, pour Stravinsky, pour Beethoven, pour Ravel et Debussy, avant ce mouvement, c'était pas régionaliste, c'était la musique. Donc aujourd'hui, le Taliesin s'est tourné vers le monde de l'arc atlantique. Les artistes sont formidables. Là, cette année, on a un artiste qui s'appelle Rhiannon Giddens. Excuse-moi si je suis un peu long. Rhiannon Giddens, le concert s'appelle Celtic Blues. Rhiannon Giddens est une femme, il faut absolument venir à ce concert parce qu'elle est américaine, de Caroline du Nord, mais elle est métisse, afro-américaine et irlandaise. Et donc, elle marie les deux cultures, les deux diasporas aux États-Unis, et elle crée à elle un univers qui va de l'esclavage jusqu'aux les bateaux des Irlandais qui arrivaient des États-Unis. Elle parle gaélique. Elle est multi-instrumentaliste de banjo, de fiddle, de toutes sortes de choses. Et on va faire un concert avec elle. C'est la première fois qu'elle fait un concert symphonique en Europe. Donc on est très content de la voir. Elle vient de gagner 2 Grammy aux États-Unis. Et donc, il y a un orchestre symphonique avec une chanteuse comme ça. Plus tard dans la saison, on est avec Denise Prigent. Et donc, beaucoup d'artistes celtiques viennent vers nous pour dire « Mais on aimerait bien faire quelque chose avec votre orchestre. » On vient d'enregistrer une fest-noz symphonique, donc, avec le Cop Brez. Donc vraiment, on a épousé notre culture parce que c'est riche. Et ça nous ouvre vers d'autres publics. Voilà.
Le Taliesin numéro 1 Celtic Blues, ce sera les 21 et 22 décembre. En ce qui concerne Denez version symphonique, ce sera plutôt en mai cette fois. Vous irez même jusqu'à Carré, à l'espace Glenmore, mais ce sera enfin les concerts au couvent des Jacobins. Oui. Comment ça se passe, ton travail justement avec un artiste comme Denez Prigent, qui est quand même quelqu'un de très, très multiple, très hétéroclite ?
Oui. C'est-à-dire que c'est toujours un risque. Est-ce que le courant va passer ? Mais ce qu'on fait, c'est souvent on rencontre les artistes. On a envie d'entendre ce qu'eux, ils ont en tête, verbalement. Parce que souvent, ils ne peuvent pas l'exprimer par une partition. Et donc, après, on cherche, on dit, mais il faut trouver une personne. Et ça, c'est la personne d'une compositrice de Pont-à-Vie qui s'appelle Frédéric Laurie, qui va faire le lien entre un orchestre symphonique et un artiste comme Denez, ou même un artiste comme Rhiannon Giddens. Il faut toujours avoir ce compositeur, arrangeur, qui est à l'écoute de tout le monde et qui réussit à créer un monde autour de chanteurs. Souvent, parfois, quand c'est pas réussi, c'est une espèce de soupe derrière le chanteur avec quelques violons qui fait quelques notes, mais quand c'est vraiment réussi, hein, comme dans l'album de Pink Floyd, quand c'est vraiment réussi, on est devant un autre style de composition musicale qui vaut les Beethoven, qui vaut les grandes choses. Et le Wall, ce qu'on vient d'écouter, est un vrai chef-d'œuvre classique de musique symphonique. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont passé après. Il y a Emerson, Lake and Palmer à peu près de même temps, qui a joué avec le Philharmonic de Londres, etc. Donc, c'est pas nouveau cet engouement pour cette monstre de l'orchestre symphonique, Frank Zappa à un moment donné aussi. Donc, Tom Waits, plein dans le monde.
Et alors, qu'est-ce qui différencie justement, quel ingrédient, cette fameuse soupe éventuelle, quand c'est peut-être juste de la superposition, ou des albums, ou des spectacles très réussis, comme celui avec John Birkin l'année dernière, par exemple?
Oui, mais justement, c'est justement ça. Il y a un artiste comme Jane, je ne sais pas si vous avez vu, mais Jane est venue avec toute son panoplie de chansons, d'histoires, c'est une histoire française, anglaise aussi, mais elle avait avec elle un compositeur, plutôt un compositeur d'électro, Nabu Nakayama, mais qui aussi était un fabuleux orchestrateur. Donc il a pris les partitions de Serge Gainsbourg et de Jane, et il les a sublimés, il les a mis en forme dans un orchestre, et tout d'un coup, c'est devenu très riche. Et justement, c'est pas juste un petit accompagnement de l'orchestre, c'est un vrai personnage avec Jane. Et les solistes, musiciens avaient toujours des petites choses à jouer chacun, comme ça, ils pouvaient briller à côté d'elle. Et donc ça a fait, vraiment, c'était un concert qui était vraiment formidable, qu'on a joué plusieurs fois en Bretagne. Donc, c'est justement ce petite chose avec les compositeurs qui relie les solistes avec l'orchestre qui fait la différence.
Cette année, sous les cordes, pas seulement les cordes d'ailleurs, mais notamment de l'Orchestre Symphonique de Bretagne, on entendra Kerenan, autant que Philippe Glass, Gershwin, Brel, Vian, Ferré. Oui. C'est quoi le rapport entre ces œuvres, entre ces artistes? Le point commun, y en a-t-il un?
Oui, le point commun, c'est la musique. Comment dire? Moi, je n'ai pas le même âge que vous. J'essaie de rester jeune dans ma tête. Quand je regarde mon iPhone à moi, ou quand je regarde les listes, les playlists des gens sur les ordi, etc., qu'est-ce que je vois? Je vois Philip Glass, je vois Brian Eno, je vois les groupes d'aujourd'hui, je vois Léo Ferré, Jacques Brel, je vois peut-être même un Bach ou un Debussy, je vois un Miles Davis, je vois tout ça. Et je peux dire pourquoi un orchestre qui a toute cette capacité de jouer toutes sortes de choses, pourquoi en France, et spécialement en France, on dit qu'un orchestre classique doit jouer... notre mission doit être de jouer une musique qui a débuté il y a 300 ans. Après, ça s'appelle classique jusqu'au moment qu'on l'appelle contemporain. On fait quelques clins d'œil à la musique actuelle de temps à autre et basta. Non, on doit être là pour être une partie de l'écosystème musical, culturel, de savoir. C'est pour ça que l'université est importante. Et aussi, pourquoi, si on a le concert avec Ferré et avec Brel, on a aussi des chansons d'Auvergne d'un compositeur qui s'appelle Cantaloube, qui a des chansons en occitan, et le concert s'appelle La Pastorale Française. Donc dans notre tête, c'était un tour de France, et la chanteuse qui est québécoise qui a dit, à côté de tout ça, j'ai envie de chanter Brel et Ferré. J'ai dit, mais bravo, on y va. Et donc, pourquoi on doit avoir cette hiérarchie culturelle? Pour moi, ça ne doit pas exister. Donc, après Philip Glass et les autres choses aussi, c'est... Bon, hors contexte, c'est un peu difficile, mais je peux en parler en contexte, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes aussi.
Un beau contexte offert aussi, une opportunité par le festival maintenant, la Nuit Américaine.
Exactement.
Ça, j'ai déjà mes places, ça c'est sûr, oui. Dès que j'ai entendu parler de ce truc-là. Avec un métissage un peu électro, justement. Oui. C'est pas tous les jours qu'on entend cette œuvre-là non plus jouer à l'opéra.
Oui. Ça veut... oui.
Enthousiasme aussi quand on vous a fait cette proposition?
C'est-à-dire que Philip Glass a 80 ans cette année. C'est un des plus grands compositeurs de notre siècle. Il a fait beaucoup travailler avec les gens comme Francis Ford Coppola, beaucoup de films, beaucoup de choses. Sa musique est un peu partout. Il est connu des gens qui ont fait de l'électro parce qu'il est un peu le père fondateur avec Brian Eno et d'autres gens de ce style de musique avec Terry Riley et Steve Reich. Et donc, quand on me proposait de faire le concerto de violon américain, le 4 saisons américain de Glass, qui a aussi un côté électro, je dis absolument, mais on a aussi une compositrice new-yorkaise de Brooklyn qui a à peine 40 ans, Missy Mazzioli, qui a écrit quelque chose qui s'appelle Orbiting Spheres, donc ça parle de la lune, des étoiles, etc., aussi avec un côté électro. Il y a le DJ Chloé, qui va être là pendant ce concert. Je trouve qu'il y a une ligne directrice dans tout ça. Et donc, de Steve Reich, Philip Glass, John Adams, Missy Mazzioli, Chloe, et même on va avoir 5 minutes de Haydn, la musique classique pure, parce que Haydn a parlé de musique des sphères, mais il y a 200 ans. Donc, j'aime bien montrer que tout est connecté. Qu'on est chacun, on peut écouter Glass et Haydn et Chloé dans la même soirée. Pourquoi pas? Et ça va être génial.
Il n'y a pas de hiérarchie entre les musiques et oui. Pas non plus entre les arts spécialement, oui. Puisqu'en termes de partenariat, vous êtes intéressé aussi au festival de l'Agassi.
Oui.
Pour là, qu'on peut même quelque chose en rapport avec l'océanologie.
Oui.
Donc décidément, il n'y a vraiment pas de cloison à l'OSB.
Non. Bah, c'est-à-dire que c'est quoi la musique aujourd'hui? Bien sûr, il y a des moments magnifiques, on ferme les yeux, la musique pure et nous importe. Mais la musique est attachée à plein de choses. Et il y a une musique, quand on regarde des photos et parfois les peintures, on parle de rythme, on parle de composition, etc. C'est comme la musique. Et parfois, dans la musique, on parle de lumière et de couleur. Donc il y a des connivences entre toutes ces arts. Et donc, j'ai toujours adoré le festival d'Agassi et on va créer. Ça a commencé, ce concert a commencé d'une façon très intéressante avec un jeune homme qui m'a contacté. Il s'appelle Julien Gauthier. Julien disait qu'il allait entrer dans un concours de composition qui était de la ministère de la Culture et de la ministère de la Défense. Quelque chose de très bizarre, un concours d'artistes. En fait, il fallait accompagner des chercheurs sur les îles Kerguelen vers l'Antarctique. Et lui, il voulait écrire une symphonie australe, une symphonie de Kerguelen et de l'Antarctique. Et je disais, mais si tu gagnes ce concours, l'Orchestre Symphonie de Bretagne jouera cette œuvre. Bah, il a gagné.
Du coup, promesse
tenue. Il est parti 5 mois à Kerguelen. Il a pris des photos, des vidéos. Il a enregistré des sons de Kerguelen sur les bateaux, etc. Il a travaillé avec les chercheurs. Il a plein de documents musicaux et visuels. Après, j'ai vu des photos d'Anita Conti, le premier océanologue, femme, féministe, Alexandre David Nel de la mer. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument voir ce qu'elle est. Fait dans les années 20. Et un autre compositeur a dit qu'il voulait faire un hommage à cette femme, mais avec ses photos. Donc, musique et photos. Après, on est allé plus loin et on s'est dit qu'on va faire un concert, un hommage aux mers de ce monde, les mers avec de l'eau. on voulait parler de la science, de la condition des mers par la musique. Pas simplement par le WWF, pas simplement par les écologistes, mais est-ce que la sensibilité vers la musique et l'image pourrait sensibiliser des gens pour penser à la mer, la condition de la mer aujourd'hui? Et on va avoir des musiciens, des chercheurs, des photographes qui vont participer à plusieurs journées de musique, art et science. Et donc, justement, pas de cloison.
Ça, ce sera pour avril, donc un petit peu de patience. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de propositions. Oui. Marc Feldman, on vous laisse poursuivre votre croisade pour susciter la volonté d'exploration chez
oui.
chacun.
Oui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup et je reviendrai une prochaine fois avec plaisir.
Avec grand plaisir. On va pas être...